Chapitre 24. Frank rentra avant Lucie ce dimanche en fin de journée. Il remercia Jaya d'avoir encore assuré et lui donna une rallonge sur son salaire. Ça faisait un moment maintenant qu'elle s'occupait des garçons, et Charcot redoutait le jour où, pour une raison ou une autre, elle déciderait de partir, car il était certain qu'il ne retrouverait pas une telle nounou, aussi disponible et dévouée. Histoire de se changer les idées, il passa ensuite du temps avec ses enfants. Jules et Adrien le sollicitaient beaucoup pour aller au parc, faire des parties de console ou jouer au foot dans le jardin. Leur appétit de vie, leurs insatiables demandes d'activité ramenaient toujours Franck à ce qu'il était, un vieux père de 60 ans qui aurait pu être leur grand-père. Bon sang, il n'avait pas vu le temps filer, surtout ces dernières années. Hier, les jumeaux étaient encore bébés. Aujourd'hui, ils approchaient des 10 ans. Demain, ils quitteraient la maison pour vivre leur vie. Pourquoi s'acharnaient-ils à exercer un métier qui mettait leur bel équilibre en péril? Est-ce que tout ça en valait encore le coup? Bien sûr, pour les victimes, pour leur famille. La petite voix le lui répétait sans cesse, chaque fois qu'il doutait. Lucie arriva peu avant 20 heures, fatiguée. Elle s'efforça malgré tout de faire un point à Franck. PV de perquisition poste daté au lendemain, lettre mise sous scellé, ordinateur portable de Doty saisi et déposé en main propre à l'expert en informatique. Lorsqu'elle lui demanda à son tour comment son dimanche s'était déroulé, il la laissa mijoter jusqu'à ce que les enfants soient couchés. Là, il ferma les portes du couloir, augmenta le son de la télé, il arrivait aux garçons d'essayer d'écouter leur conversation, et alla s'installer à la table du salon avec toute la paperasse collectée depuis le début de l'enquête. À cet instant, Lucie remarqua ses difficultés à se déplacer.
Tu boites ?
Un méchant coin de lit, en plein dans le tibia. La chambre était minuscule. Je me le suis pris en sortant de la salle de bain. Je te garantis que je me suis roulé par terre pendant au moins 10 minutes.
Lucie grimaça, pleine de compassion. Impatient de commencer, Franck lui tendit quelques-unes de ses photos imprimées de son téléphone.
Journée fructueuse. Accroche-toi parce que ce que je vais te raconter vaut son pesant de cacahuète.
Je vais essayer.
Il doit me rester 2-3 neurones qui fonctionnent encore.
Franck pointa le cliché qu'elle tenait.
J'imagine que t'as reconnu Nathalie Charlier, la seule survivante à un éboulement survenu en 2017. Retrouvée morte au bas de son escalier en mai 2021, les traits figés dans une expression de terreur.
Lucie éprouva de nouveau un malaise face à ce visage, du genre de celui que le visiteur du musée ressent face à Méduse, la gorgone à la chevelure faite de serpents qui transformait en pierre quiconque la regardait. Charcot, lui, continua sur sa lancée.
Ici, c'est Alexis Lavoisier, miraculé d'une chute de téléphérique en 2016. Le drame a eu lieu en Italie. 11 victimes, il est le seul rescapé. Sa mère le découvre mort au bas de son échelle alors qu'il réparait la toiture de ses parents 3 ans plus tard, en juillet 2019. Même masque d'horreur que Charlier.
Lucie éteignit la télé qui lui tapait sur les nerfs avant de se reconcentrer sur les propos de Franck, qui poursuivait sa démonstration.
Dans l'après-midi, j'ai eu un peu de temps pour faire des recherches sur quelques-uns des autres articles de cet acabit présents sur le bureau de Doty. L'un d'eux, par exemple, concerne un certain Richard Fanucci, 48 ans. En 2015, il a réchappé à une explosion due à des produits chimiques dans l'est de la France. Il était sur site avec 9 de ses collègues, tous morts, sauf lui. J'ai ensuite retrouvé sa trace sur Facebook. Je te le donne en 1000. Des messages indiquent sans autre précision qu'il est décédé dans un tragique accident en septembre 2020.
Lucie n'était pas sûre de bien comprendre où il voulait en venir. Ou plutôt si, elle voyait mais espérait de tout cœur se tromper.
T'es en train de me dire qu'il y a un tueur en série qui sévit dans l'ombre depuis minimum 2 ans et qu'il s'en est pris à au moins 3 personnes. Il s'attaque à des miraculés, à des personnes qui n'ont selon toute vraisemblance aucun lien entre elles, si ce n'est leur histoire personnelle. Et il fait passer ses meurtres pour des coups du sort.
Lucie mit quelques secondes à assimiler l'information.
Rapidement, un élément la perturba.
Et les visages, comment il fait ?
Je ne vois qu'une solution.
Il reste sur place plusieurs heures pour maintenir la bouche et les yeux de ses proies ouverts, jusqu'à ce que la rigidité cadavérique s'installe et fige son chef-d'œuvre. Lucie se recula sur sa chaise, stupéfaite. « Bon sang, tu te rends compte de ce que t'es en train de dire, là ?»« S'il prend tant de risques, c'est parce que ça a un sens très fort pour lui. On a tous eu la même réaction devant ces corps qui exprimaient l'effroi absolu. On a eu l'impression que ces victimes avaient vu la mort en face. Peut-être qu'il se considère comme une sorte de messager ou de justicier. » Lucie observa son homme. Il brillait dans son regard un éclat qu'elle connaissait par cœur. Le requin était ferré et ne lâcherait pas l'hameçon. Et elle serait entraînée dans son sillage. Tu crois que le tueur s'en est pris à Emma Doty aussi? Elle correspond au profil, en tout cas. Miraculée, elle aussi. Ce que je ne saisis pas, c'est pourquoi on n'a pas retrouvé son cadavre, puisque le tueur semble les mettre en scène. Il aurait très bien pu entrer chez elle et la faire tomber de sa mezzanine, par exemple. C'était suffisamment haut pour qu'elle décède sur le coup. Mais le vrai truc perturbant, c'est la raison pour laquelle on aurait découvert l'un de ses os dans le corps d'une autre femme. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer exactement. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'elle était sur les traces de cet assassin. Il feuilleta son carnet. C'était l'un des moments de l'enquête qu'il appréciait le plus, celui où on commençait à entrevoir de l'ordre dans le chaos. Je résume sa trajectoire. Fin d'année dernière, début 2021, elle entame un travail sur son sujet autour de la mort. L'un de ses axes, ce sont les gens qui, comme elle, ont réchappé de la façon la plus incroyable qui soit à la grande faucheuse. Une expérience qui doit te transformer en profondeur. Doty voulait probablement savoir comment les autres avaient vécu la leur. Elle se met à consulter des magazines de faits divers, des journaux et dégote des cas qui l'intéressent. Elle remonte jusqu'à certains d'entre eux, part à leur rencontre au fil des semaines. Quand elle veut interroger Alexis Lavoisier, l'un des premiers de sa liste, elle apprend qu'il est mort. C'est le père qui lui révèle les circonstances du décès et qui lui parle de cette vision qui le hante encore aujourd'hui, cette terreur imprimée sur les traits de son fils. Il m'a assuré qu'Emma avait été complètement surprise. Elle n'était au courant de rien. Tout serait donc parti d'Alexis Lavoisier ? Je crois. Doty essaie tout d'abord de trouver une explication à cette histoire. Elle fait des recherches, peut-être qu'elle tombe sur des articles traitant des spasmes cadavériques. Les soldats dans les tranchées, les victimes de génocides emportées avec brutalité. Elle tente de trouver une explication logique à la mort du jeune Lavoisier, en puisant dans des faits historiques. Charcot se leva, continua à dérouler les derniers mois de la séroplasticienne en déambulant dans le salon. Bon, du temps passe. On est en mai. On peut supposer que Doty s'est entretenue avec d'autres survivants et que ses investigations ont fini par la conduire vers la seule rescapée d'un dramatique éboulis en montagne.
Nathalie Charlier.
Oui. Elle déniche son adresse, se rend sur place. Elle apprend alors que Charlier vient de mourir. Une chute comme pour Alexis Lavoisier. La coïncidence commence à la questionner. Ce n'est peut-être pas un hasard. Doty veut à tout prix en avoir le cœur net, voir de ses propres yeux le visage de la défunte. Le corps est à la morgue, en attente de son autopsie. Alors, elle y pénètre illégalement. Exactement. Elle se fait prendre, mais elle a désormais une certitude. Des miraculés meurent en ayant vu la mort en face. Elle tient un sujet brûlant, irréel. Imagine l'état dans lequel cette femme profondément croyante se trouve. Car je ne suis pas certain qu'elle ait le réflexe, comme nous, de penser à un tueur en série.
Elle voit sans doute là-dedans quelque chose de moins rationnel que les actes d'un criminel.
Vraisemblablement. Elle s'enfonce dans sa quête. Elle s'isole de plus en plus et s'engage sur une voie dont, pour le moment, nous ignorons où elle l'amène. En parallèle, elle s'intéresse à Nebraza. Elle veut qu'il lui parle de ces démons qui le harcèlent. Début avril, un mois avant son intrusion à la morgue, elle essaie d'entrer en contact avec lui à l'abbaye. Mais c'est compliqué, car Nebraza s'est coupé du monde. Elle insiste, multiplie les allers-retours. Au fil du temps, une correspondance se met en place. Elle va le voir, il lui répond par des lettres. Elle suit donc deux axes en parallèle, bien distincts, avec néanmoins des points communs,
la rencontre avec la mort et l'irrationnel. Les entités malignes d'un côté, les miraculés qui meurent dans d'étranges circonstances de l'autre.
C'est ça. J'imagine que tu as vu le courrier dans sa boîte aux lettres. Le dernier que Nebraza lui a envoyé et qu'elle n'a pas pu ouvrir, cette histoire de faille.
En effet, c'est quoi à ton avis ?
Impossible de savoir pour l'instant. Et il y a aussi ce mot sur lequel était écrit « Pazuzu » dans son tiroir. J'ai jeté un œil sur Internet. Pazuzu est en quelque sorte le roi des démons. Il dirige les vents mauvais, peut provoquer des guerres, des catastrophes et propager des épidémies.
Ce qui fait écho aux photos affichées sur son panneau en liège.
C'est ce que j'ai également pensé. Pazuzu est entre l'homme et l'animal. Croix serrée, griffes énormes, yeux globuleux, pas beau à voir. Je ne saisis pas ce qu'il vient faire au milieu de tout ça, mais ça confirme qu'Emma était sur une piste irrationnelle. Mais nous, on sait que tout ça n'existe pas, hein, Lucie ?
Oui, oui, ça n'existe pas, évidemment.
Franck connaissait bien ce regard légèrement fuyant. Elle n'était pas convaincue par ses propres mots.
Notre tueur est bien concret. Ce n'est pas un sac d'os avec une faux ou un démon ailé venu directement de l'enfer. Notre homme s'est renseigné sur ses victimes. Il doit y avoir une phase de repérage, puis d'observation méticuleuse qui lui permet de passer à l'acte avec la certitude de ne pas se faire prendre. Il ne laisse pas de traces, ne cherche pas la lumière. Pourtant, les tueurs en série en général veulent qu'on parle d'eux, de leur œuvre, pas lui. Il s'arrange pour que ses crimes aient l'air d'accident. Rien de sexuel, rien de pervers, pas de mutilation. Des morts propres, sans bavure. Il n'y a que ses visages.
Il ne tue pas pour tuer. Il croit en ce qu'il fait.
Franck étudia encore les photos, en pleine réflexion.
Demain, dès que j'aurai récupéré le dossier, je me pointe chez le juge avec tous les éléments dont on dispose officiellement. Je fais ouvrir une enquête sur la disparition de Doty, je lance une perquise en bonne et due forme de ses logements et on communique sur cet assassin qui agit dans l'ombre depuis bien trop longtemps.
Ça fait beaucoup pour un type qui était censé être en congé forcé.
Franck attrapa la main de sa femme, un léger sourire aux lèvres.
C'est surtout parce que t'as assuré. On a gagné un temps précieux grâce à toi.
Ouais. T'as quand même une sacrée chance de retomber sur tes pattes.
Un requin retombe toujours sur ses pattes.
Lucie leva les yeux au ciel, puis l'embrassa brièvement.
J'ai l'impression de retrouver le flic teigneux que j'ai connu il y a des années. Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Parce que ce flic-là est une tête brûlée qui a tendance à oublier qu'il a une famille.